Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 8 mars 2024, 18 Esfand 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Le nouveau Parlement apporte du sang frais dans la structure politico-sociale de l'Iran, affirme le leader. Israël a entravé tous les efforts de médiation pour la trêve à Gaza, affirme le Hamas, et les enfants ayant survécu au bombardement risquent de ne pas survivre à la famine à Gaza, avertit l'OMS. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. Le leader de la révolution islamique souligne que la formation de chaque nouveau Parlement apporte de nouveaux espoirs et constitue un capital précieux pour le pays. Lors d'une audience accordée 7 mars à Téhéran au président et aux membres de l'Assemblée des experts, le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, a déclaré qu'un nouveau parlement apporte du sang frais dans la structure politique et sociale de l'Iran. Il a préconisé aux députés iraniens nouvellement élus à être vigilants et à ne pas désespérer la nation pour que le climat politique du pays ne paraisse pas opaque. L'ayatollah Khamenei a souligné que les paroles qui divisent, les querelles et les hostilités favorables à l'ennemi peuvent affecter le nouveau Parlement, conseillant aux nouveaux députés de rester très prudents. L'Assemblée des experts ne doit jamais négliger les principes constants de la République islamique dans ses décisions, a-t-il dit. Plus loin dans ses propos, il a estimé que la situation tragique dans la bande de Gaza était un exemple flagrant de l'oppression et de l'agression du front arrogant contre les propriétaires fonciers, de la destruction de leurs biens et du meurtre brutal de femmes et d'enfants. Le leader a souligné que la République islamique s'opposait à ces atrocités et ces crimes soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays européens qui sont d'ailleurs condamnés par la raison, la charia et la conscience humaine. Le guide suprême a souligné que l'Iran devait rester à l'avant-garde de la bataille contre l'arrogance mondiale, renforcer sa lutte chaque jour et ne jamais permettre à quiconque de le vaincre. Le mouvement de résistance palestinien Hamas affirme qu'Israël a entravé tous les efforts des médiateurs pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza assiégée. Le haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré qu'Israël refusait de mettre fin à son attaque contre Gaza, d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et le retour des Palestiniens déplacés. Un autre responsable du Hamas impliqué dans les négociations dans la capitale égyptienne s'est attardé sur le sujet pour dire « Nous attendons la réponse officielle finale de l'ennemi israélien ». Les premières réactions ne répondent pas aux exigences minimales liées à la cessation définitive des hostilités, a dit le responsable. « Nous ne ferons aucun compromis sur ce qui garantit la sécurité de notre population ». Le Hamas insiste sur un retrait complet des forces israéliennes de Gaza, le retour des déplacés et l'entrée de l'aide humanitaire et le début de la reconstruction dans le territoire assiégé. Un autre responsable du Hamas, Mahmoud Mardavi, a affirmé, lui, que le sort des négociations reposait désormais sur les États-Unis, le principal soutien et protecteur d'Israël. Il revient désormais à Washington de décider s'il veut faire pression sur Netanyahou et son régime pour parvenir à un accord, a réitéré Mahmoud Mardavi. Si Israël est sérieux et ne tergiverse pas, il est possible de parvenir à un cessez-le-feu avant le mois du Ramadan, a-t-il dit. Le porte-parole du Hamas, Jiata, a estimé, lui, qu'Israël refuse de s'engager et de donner des garanties concernant le cessez-le-feu, le retour des personnes déplacées et le retrait des zones de son incursion. La délégation du Hamas a quitté le Caire sans parvenir à une percée dans les négociations. Le Hamas affirme que les pourparlers devraient reprendre la semaine prochaine. Et alors que, selon les statistiques hospitalières, la faim et la malnutrition à Gaza ont tué une vingtaine d'enfants, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les conséquences d'une famine généralisée pour les enfants. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les enfants de Gaza, qui ont survécu aux bombardements israéliens, ne survivront peut-être pas à la famine, appelant à autoriser l'acheminement des aides dans la bande assiégée. C'est ce qui ressort de ces posts publiés sur la plateforme X. En réalité, le responsable de l'ONU a également partagé une courte vidéo montrant des nourrissons dans les couveuses à l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza, rappelant qu'un enfant de moins de 12 ans sur 6 dans le nord de Gaza souffre de malnutrition aiguë. Le directeur de l'organisation a déclaré que les civils, en particulier les enfants et les agents de santé de la bande de Gaza, ont besoin d'une aide immédiate. Sur la plateforme X, Ghebreyesus a mis en garde contre des niveaux graves de malnutrition et la mort des enfants à cause de la faim dans le nord de Gaza. Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, pour déclarer une famine, au moins 20% de la population doit souffrir de graves pénuries alimentaires et un enfant sur trois doit souffrir de malnutrition aiguë. L'hôpital Kamal Adwan, le seul hôpital pédiatrique du nord de l'enclave palestinienne, déborde de patients. Le manque de nourriture a entraîné la mort de nombreux enfants. Le ministère palestinien de la Santé fait état de moins 16 enfants morts de malnutrition dans le nord de la bande de Gaza. Suite du journal, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient condamne les avancées signalées dans les plans de colonisation des sionistes en Palestine occupée. Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a annoncé dans une déclaration publiée jeudi, dixit, « Je condamne l'avancée annoncée hier par les responsables israéliens d'un projet de construction de plus de 3400 logements dans les colonies de Cisjordanie occupées. » Selon le responsable de l'ONU, l'expansion des colonies israéliennes continue d'être un moteur de conflit en Cisjordanie occupée, renforçant encore davantage l'occupation et portant atteinte aux droits des Palestiniens à l'autodétermination et à un État indépendant palestinien. Je réaffirme que toutes les colonies sont illégales au regard du droit international et j'exhorte les responsables israéliens à cesser toute activité de colonisation et à s'abstenir de toute action provocatrice dans ce contexte, précise Wennesland. Les médias proches du régime de Tel Aviv ont rapporté le 6 mars que le cabinet du régime sioniste avait approuvé un projet de loi pour la construction d'environ 3500 nouveaux logements sous la forme de colonies de peuplement sioniste en Cisjordanie. Les nouvelles unités résidentielles seront construites dans les colonies de Maal et Adumim, d'Ephrat et de Kedar. Le ministre des Finances du régime d'occupation israélien, Bezalel Smotrich, a affirmé que la plupart des logements étaient censés être construits dans la colonie de Maalé Adumim. Force est de noter qu'une opération armée a récemment été menée dans la colonie au cours de laquelle plusieurs sionistes ont péri. Et pour fermer le journal, sachez que le porte-parole du Kremlin a estimé que le président français a augmenté l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron entraîne de plus en plus son pays dans les combats en Ukraine, ce qui n'est absolument pas dans l'intérêt de son peuple, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Dans une vidéo diffusée sur Telegram par un journaliste russe, le porte-parole du Kremlin a estimé qu'Emmanuel Macron augmentait l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine, après ses propos n'excluant pas l'envoi des troupes occidentales sur place. Monsieur Macron est convaincu de la politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France, a-t-il dit avant d'ajouter « De notre point de vue, cela ne correspond en aucun cas aux intérêts des Français ». Le porte-parole du Kremlin a noté le caractère contradictoire des déclarations faites à Paris à ce sujet depuis les premiers propos de M. Macron. D'un côté, M. Macron commence à discuter de la possibilité d'envoyer des contingents militaires dans la guerre en Ukraine. De l'autre, le ministre des Affaires étrangères français nie catégoriquement la possibilité d'envoyer de tels contingents, a-t-il déclaré selon l'agence de presse russe Interfax, avant d'affirmer qu'il y a un débat intra-français et intra-européen très actif. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'Iran se réserve le droit légitime de répondre aux menaces israéliennes, affirme l'ambassadeur d'Iran à l'ONU. L'ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a mis en garde contre l'aventurisme militaire d'Israël dans la région, soulignant que Téhéran se réservait le droit inhérent de répondre aux menaces et aux attaques émanant du régime sioniste. Dans une lettre adressée jeudi 7 mars au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et au président tournant du Conseil de sécurité de l'ONU, l'envoyé iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani, a rejeté les allégations et les menaces proférées par le régime israélien contre la République islamique, tout en mettant fortement en garde contre tout aventurisme militaire ou toute activité malveillante du régime israélien dans la région. La République islamique d'Iran se réserve son droit légitime et inhérent conformément au droit international et à la Charte des Nations unies de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à toute menace ou attaque menée par le régime israélien contre sa sécurité, ses intérêts nationaux et son peuple, a-t-il écrit dans sa note. Sa lettre faisait suite à une lettre antérieure du ministre des Affaires étrangères du régime d'occupation sioniste, Israël Katz, à l'ONU, prétendant que l'Iran avait intensifié les livraisons d'armes au mouvement de résistance libanais, le Hezbollah. Les accusations formulées dans la lettre sont totalement infondées et catégoriquement rejetées. Cette lettre représente une nouvelle tentative cynique faite par le régime israélien de détourner l'attention de la communauté internationale des atrocités flagrantes et des actes de génocide commis par le régime d'apartheid d'Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Il s'agit également d'une tentative trompeuse de légitimer l'agression israélienne contre le Liban et ses violations continues du droit international, de la Charte des Nations unies ainsi que des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, en lançant des allégations infondées contre l'Iran, a déclaré l'ambassadeur iranien. L'Iran réaffirme également le droit inhérent de la République arabe syrienne et du Liban en vertu du droit international, de prendre toutes les mesures nécessaires en réponse à toute menace ou attaque et acte d'agression du régime israélien contre leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale, a souligné le diplomate. La recrudescence des actes d'agression d'Israël contre la Syrie et le Liban fait suite aux attaques du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Israël a mené une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre 2023 après que le Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa dans les territoires occupés en représailles aux crimes incessants du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Gaza. Depuis le début de l'agression, le régime de Tel Aviv a tué au moins 30 800 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 72 298 autres. Israël cible également fréquemment des positions militaires en Syrie, en particulier celle du Hezbollah libanais, qui a joué un rôle clé dans la lutte syrienne contre les terroristes soutenus par des pays étrangers. Depuis lors, l'armée israélienne a également mené des attaques contre le territoire libanais, provoquant des représailles du mouvement de résistance libanais Hezbollah en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le mouvement de résistance libanais s'est engagé à poursuivre ses opérations de représailles aussi longtemps que le régime de Tel Aviv poursuivra ses attaques contre la bande côtière de Gaza.
Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette émission. Nous allons donc présenter l'émission Débat et le sujet est la famine à Gaza. Donc tout de suite, je vais vous proposer un reportage qui résumera la situation humanitaire et sanitaire de Gaza et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Nations Unies préviennent qu'en l'absence de tout changement dans la guerre génocidaire en cours menée par le régime israélien contre la bande de Gaza, cette région est en passe de connaître une famine totale. James Laerk, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, a tenu ses propos lors d'une conférence de presse à Genève vendredi. Si quelque chose ne change pas, une famine est presque inévitable au vu des tendances actuelles, a-t-il averti, avant d'indiquer, une fois qu'une famine est déclarée, il est trop tard pour trop de gens. Nous ne voulons pas en arriver à cette situation et nous avons besoin que les choses changent avant cela, a-t-il souhaité. Nous devons examiner ce que de plus en plus de voix, de plus en plus fortes, disent à propos de la situation de la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, a-t-il ajouté. Cela intervient un jour après que le chef des droits de l'homme des Nations Unies s'est dit consterné face à la brutalité avec laquelle le régime israélien menait la guerre. Il semble n'y avoir aucune limite, aucun mot pour décrire les horreurs qui se déroulent sous nos yeux à Gaza, a déclaré Volker Türk au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Jusqu'à présent, plus de 30 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à la suite de l'attaque militaire israélienne. Israël a mené sa guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre après que le groupe de résistance palestinien Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Parallèlement à la guerre, le régime sioniste a imposé un siège complet à la bande surpeuplée ayant coupé le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. Le système de santé de la bande de Gaza est à genoux, alerte Christian Lindmeier, le patron de l'Organisation mondiale de la santé OMS, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnait plus du tout. Tous les canaux vitaux à Gaza ont été plus ou moins coupés.
Donc, nous revoilà dans les studios. Tout de suite, nous allons annoncer nos invités. Première été, vous la connaissez, c'est Madame Aïssar Midani. Madame Aïssar Midani, ravie de vous avoir avec nous, experte surtout de la région du Moyen-Orient. Merci encore d'accepter nos invitations à nos débats.
Merci de votre invitation. Bonjour à votre équipe et bonjour à votre invité.
Alors, notre deuxième invité étant M. Bernard Cornu. Alors, depuis le 7 octobre, nous sommes ensemble depuis le début. M. Cornu, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Malheureusement, plus les semaines passent, plus il y a de moins en moins d'espoir de voir la situation s'améliorer. Et avec le mois du Ramadan, ça devient de plus en plus préoccupant. M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous en tant qu'invité.
Bonjour à tout le monde.
Alors, dans mon studio, je n'entends aucun son de la part de nos invités. Alors, est-ce que les choses peuvent se régler? Alors, Madame Aïssar Midani, alors j'ai envie de parler de deux choses qui peuvent être, qui sont différentes, mais qui peuvent se relier. Nous savons que les organisations internationales, les organismes humanitaires ont indiqué que la famine était pratiquement là. Quand on parle de famine, on parle surtout d'un organisme humain qui ne mange plus depuis plusieurs jours et dont certains organes ne fonctionnent plus comme il le faut. Donc, arrivé à un certain point, si on le sait d'un point de vue médical, on ne peut plus sauver la personne même si elle est nourrie. C'est vers là que va Gaza, que vont les Gazaouis. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui, depuis ce lundi, une réunion de l'OTAN dans le nord, dans le nord de l'Europe, et 20 000 soldats ont été regroupés, 20 000 soldats, c'est 20 000 soldats qui pourraient sauver des vies à Gaza, j'ai envie de dire, qui pourraient en tout cas, arrêter le conflit, stabiliser les choses au niveau des voies humanitaires. On a également le fait que l'OTAN est soi-disant été créée pour éviter les dangers mondiaux. Alors, Madame Aïssar Midani, entre les deux événements qui se passent aujourd'hui, à ce lundi, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Écoutez, de toute façon, l'entreprise génocidaire israélienne, elle est réelle et ils ne cachent pas leur jeu. Donc, leur objectif, c'est effectivement non seulement affamer, mais tuer toute la population, ou alors la provoquer un exode et un exil total de cette population. L'État d'Israël l'a affirmé à plusieurs reprises par la bouche de son premier ministre Netanyahou, appuyé d'ailleurs sans compter par les États-Unis, qui sont aussi un autre État génocidaire. Il faut quand même rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, il y a des millions de personnes qui ont été tuées dans le monde par les entreprises américaines. Alors, cette réunion des soldats, effectivement, de l'OTAN, etc., elle n'est jamais faite pour sauver des vies, et c'est toujours pour agresser, pour tuer, pour affamer. Il faut quand même rappeler que la politique américaine par excellence est celle de ce qu'ils appellent des sanctions, c'est-à-dire des mesures coercitives au peuple, où on arrête on casse tout, en fait, on crée un blocus sur la population en but de l'affamer, de l'anéantir, en fait, tant qu'elle ne se met pas à genoux. Alors, le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ne se mettent pas à genoux et que les Américains leur en veulent à mourir, puisqu'ils continuent à lever la tête depuis 100 ans. Ils exigent effectivement la libération de leur territoire, de la Palestine qui leur appartient, qui sont leurs terres, et que les Israéliens ont usurpé par l'appui d'ailleurs de tous les pays impérialistes américains, britanniques et français, et maintenant allemands. Donc, ça ne plaît pas du tout. Donc, ils sont prêts à tuer tout le monde sans problème. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que particulièrement sont visées les femmes et les enfants, qui sont aussi les femmes qui sont non seulement qui perpétuent l'espèce, mais aussi qui perpétuent la culture du pays, la culture de l'histoire, et qui racontent l'histoire de la Palestine, qu'ils n'ont pas oublié, comme souhaitaient Golda Meir et Ben Gurion, et que de plus en plus les générations continuent à vouloir l'indépendance de leur pays, à se battre pour cette indépendance. Et voilà qu'en plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même, avec la complicité des pays environnants, on accomplit un génocide tout en faisant des parodies et des parades de balancer de la farine par le ciel, mais peut-être c'est la feuille de vigne qui cache leur crime et qui cacherait leur crime et leur complicité. Donc franchement, c'est un génocide avec complicité à la fois des instances internationales qu'on appelle soi-disant pour sauver les gens, mais qui sont aussi complices par leur inaction. C'est bien de constater la famine, c'est bien de dire « Ah là là, les hôpitaux ne fonctionnent plus ». Mais quand les Israéliens bombardaient les hôpitaux et ont décidé de créer la famine, ces mêmes organisations n'ont protesté que par des petites voix et n'ont rien fait, ne font rien, parce qu'ils sont complètement abolis et anéantis, et ils sont aussi soumis au diktat américain.
Merci, Madame Aïssar Meidani. Alors, Monsieur Cornu, vous qui pensez que les relations entre les pays, les États doivent exister et doivent se poursuivre, qu'il y a des systèmes et des outils existants au niveau international pour bloquer un pays dans sa mauvaise voie, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit à Madame Aïssar Meidani, aujourd'hui, il y a la réunion otanesque, là, dans le nord de l'Europe, où 20 000 soldats ont été regroupés. Comme j'ai dit, quand on sait quelle est la situation à Gaza et qu'on sait que ce sont les Israéliens et l'entité sioniste qui bloquent les voies des camions humanitaires, ces 20 000 soldats seraient beaucoup plus utiles pour donner de la nourriture que d'aller faire des exercices qui ne vont que créer plus de tensions dans la région, notamment en Ukraine et en Russie. Monsieur Bernard Cornu, en vue de la situation très hypocrite, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que là, on ne peut plus parler que juste du mot hypocrisie.
Oui, plus que des soldats, ce seraient des policiers internationaux qui seraient utiles pour faire appliquer par la force les décisions de justice, les ordonnances de justice qui ont été déjà prises par la différente cour de justice, la Cour internationale de justice, et bientôt la Cour pénale internationale, qui a été saisie aussi par de nombreux avocats internationaux, par l'État de Palestine lui-même, qui a droit. Mais malheureusement, ces cours de justice n'ont que les moyens du Conseil de sécurité, donc qui sont bloquables par les grandes puissances, par les États-Unis, alors qu'il faudrait créer justement une police internationale pour pouvoir appliquer ces décisions de façon juste et rapide, afin de pouvoir mettre la justice dans les faits. Actuellement, c'est vrai que la justice internationale a beaucoup progressé dans les paroles, dans les décisions de justice, dans les dossiers. C'est très clair, les documents de la Cour internationale de justice sont très clairs, très référencés, sont difficilement contestables pour la plupart des points, mais ces cours de justice n'ont pas encore les moyens de faire appliquer leurs décisions. Donc j'espère que ces moyens de justice vont progresser, c'est par là qu'il faut avancer certainement, et il faudra aussi, je pense, imposer une réforme du Conseil de sécurité, puisque actuellement il n'y a aucune chance que les résolutions sous chapitre 7 qui sont les seuls moyens contraignants qui peuvent être appliqués par la force dans le cadre du droit international de la Charte des Nations Unies, soit applicable, parce que les Américains mettront encore leur veto. Donc, comme ils sont complices depuis le début, depuis plus de 100 ans, dans la création d'un foyer national juif en Palestine, afin d'avoir une base aérienne pour contrôler l'ensemble du Moyen-Orient, qui est riche en pétrole et en gaz, et tous les gens stratèges le savaient à l'époque, il y a plus de 100 ans, parce qu'il y a des connaissances géologiques, des connaissances, et l'Irak notamment, et le sud de l'Iran, on savait qu'il y avait des gisements de pétrole affleurant, donc tout ceci était connu, et tous les gens savaient, à l'époque où on a inventé le moteur diesel, les moteurs des sous-marins, très rapidement, les choses se sont développées très rapidement, et les stratèges ont tout de suite compris que la Mésopotamie et le Golfe étaient une région stratégique pour le reste des siècles à venir.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Mme Issar Milani, vous avez connu la guerre en Syrie, vous avez connu donc cette hypocrisie, cette volonté de l'OTAN d'être présent de plus en plus fort dans la région sous prétexte de terrorisme, de groupuscules terrorisme. Et vous savez comment les choses se passent en termes de conflit, hein, plus de 500 000 morts directs en Syrie, indirects beaucoup plus, le double voire le triple. Les chiffres ne sont pas encore nets par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, mais on est sur du 500 000 sûr. On parle du double ou du triple par rapport à des morts indirectes, donc les famines, les maladies, les sanctions. Madame Midani, au vu de la session, y a-t-il encore un espoir que les pays se réveillent et sanctionnent avant le ramadan, sanctionnent donc l'entité sioniste pour le pousser finalement à faire venir les camions au sein des territoires gazaouis? Est-ce que c'est possible encore? Est-ce qu'il y a encore l'espoir à ce niveau-là?
D'ailleurs, je voudrais, je vous remercie d'avoir parlé de la Syrie, parce qu'il y a une famine aussi qui est en Syrie, qui est en silence, hein, puisque les États-Unis, avec l'aide de ses proxys avec Israël, ils ont aussi exercent un blocus catastrophique sur la Syrie pour affamer. Après avoir incendié la culture, après avoir détruit des hôpitaux, après avoir fait tout pour faire partir aussi les médecins du pays, et en fait, heureusement, la Syrie ne s'est pas effondrée et donc elle continue à vivre avec ses moyens. Les moyens que le pillage des Américains lui laisse, en fait, parce que je rappelle quand même qu'il pille tout le pétrole syrien et tout le blé syrien. Donc, en fait, il nous laisse très peu de moyens de subsister. Que maintenant, effectivement, il pratique la même chose vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de la Palestine entière, parce qu'il ne faut pas oublier la Cisjordanie, qui est aussi sous blocus et sous contrôle des forces israéliennes, malgré le fait qu'ils aient signé les accords d'Oslo où la Cisjordanie devait être autonome sous la direction de l'autorité. Mais en fait, c'est Israël qui y règne et qui détruit à son bon vouloir tout ce qu'elle veut détruire, y compris aussi les cultures et les maisons et les hôpitaux. Donc ça c'est aussi, mais à mon avis, il n'y a absolument, enfin le ramadan est quand même dans une semaine, et il n'y a absolument aucun moyen de stopper effectivement cette entreprise de sape et de destruction, je dirais, de génocide visant à affamer la population en Palestine. Parce que, en fait, hein, et si ça se fait, ces aides hein, au compte-gouttes, etc., c'est pour garder les gens vivants, mais sans aucune force. Hein, donc, juste pour leur permettre de vivre hein, en les mettant à genoux. Et les spectacles des attaques, en fait, par les avions israéliens et par les chars israéliens, des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire qui vient, le peu d'aide alimentaire qui a pu filtrer et qui a pu arriver, ça en dit long sur la criminalité de cet État génocidaire et sur sa volonté d'anéantir effectivement la population, mais sa volonté sadique aussi. Ce n'est pas tuer, mais c'est une mort lente qu'ils veulent imposer au peuple palestinien qui ose dresser sa tête face aux diktats israéliens et américains pour revendiquer l'indépendance de son pays.
Merci Madame Issaoui Midani. Monsieur Cornu, vous avez parlé donc d'une police internationale, mais il en existe une. En tout cas, elle a déjà été réunie. On parle des casques bleus. Il y a déjà eu donc une réunion de soldats spécialisés pour aller notamment donc atténuer les choses et séparer les deux groupes qui se faisaient la guerre. Donc ce ne c'est pas quelque chose de nouveau dans le système international. Et pourtant, on n'en est qu'aujourd'hui à parler d'éventuelles sanctions contre l'entité sioniste. On est quand même à 150 jours de conflit, dont plus de la moitié avec des hôpitaux en difficulté, voire pratiquement inexistants. Donc détruit. On est vraiment détruit. Enfin, quand je dis inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de matériel, puisque le matériel, ça fait depuis longtemps qu'il n'existe plus. Donc, Monsieur Cornu, comment on peut en arriver à une police internationale quand aucun pays ne veut bouger?
Oui, effectivement, les casques bleus sont un moyen. Ils sont appliqués à la frontière au sud du Liban. Ils sont appliqués ailleurs aussi, dans le Golan occupé, enfin dans certaines parties du monde. C'est effectivement l'article 22 de la charte qui permet, et ceci a été évoqué d'ailleurs récemment par un avocat sur votre chaîne, cet article permet au secrétaire général de créer des organes subsidiaires dans le pays. Toujours il y a le veto possible des Américains, donc voilà, ça serait dans ce cas-là, il y a peu de chances que ça se passe, sauf si on arrivait à trouver les termes qui soit acceptable pour les Américains sous pression d'autres membres du Conseil de sécurité, et sachant que la situation est effectivement extrêmement terrible, que comme ça a été dit dans votre reportage, beaucoup d'États occidentaux savent que maintenant ils sont jugés comme complices de la poursuite d'un génocide, puisque ceci a été déclaré, et que la Convention sur le génocide demande à chacun de dénoncer ces actes-là et de dénoncer les pays complices de la poursuite de ces génocides. Donc, le crainte de la justice va peut-être commencer à influencer, mais c'est que s'il n'y aura un outil d'application indépendant de ces décisions de justice que les dirigeants de nos pays occidentaux pourront s'exécuter. Actuellement, comme vous l'avez évoqué, ils font des actions de propagande en jetant à très grands frais quelques tonnes de victuailles par les airs, ce qui est une humiliation pour les Palestiniens. Plusieurs Palestiniens ont dit « nous ne voulons pas de cette aide-là, nous voulons que les camions passent, nous voulons la liberté, nous voulons l'indépendance. »
Voilà. Ah, il faudrait...
Ouais, les images sont quand même assez inhumaines.
Les pays environnants... Pardon.
Allez-y, Madame Idani.
Oui, je pense qu'il faudrait que les pays environnants fassent effectivement pas seulement pression, qu'ils fassent pression contre Israël pour ouvrir déjà les passages, parce que Rafah est quand même en terre égyptienne, et que c'est l'État égyptien qui dirige normalement le passage de Rafah. Il y a aussi d'autres passages. Et on voit quand même la Jordanie, l'Égypte et les Émirats arabes unis qui continuent à envoyer des vivres, qui continuent à envoyer des vivres à Israël et pas à Gaza. Il faudrait que ces pays-là se sentent concernés effectivement par ce génocide et par cette grande tuerie. Du peuple palestinien, d'une part. Ça, d'autre part, il faudrait aussi que les pays au niveau de l'ONU rejettent la dictature américaine sur le Conseil de l'ONU, déjà, et que les votes soient plutôt à la majorité des pays et pas du tout avec ce veto. Ce veto qui est antidémocratique et qui est dictatorial, qui permet aux États-Unis d'anéantir toutes les décisions. Il faut quand même rappeler que 153 pays qui étaient pour le cessez-le-feu à Gaza, et que les États-Unis ont fait fi de tout ça, qu'ils continuent à constituer un pont aérien aussi de munitions et d'armement d'aide à Israël. Donc en fait, aujourd'hui, ceux qui font le génocide, ce n'est pas seulement Israël, mais c'est Israël et les États-Unis, avec tous les laquais des États-Unis dans la région. Il faut le dire quand même. Et malheureusement, alors que ce sont des pays arabes, ils ne se sentent pas capables de s'opposer à ce génocide en s'opposant au diktat américain.
Merci, Madame Aïssa Armilani. Merci, Monsieur Bernard Cornu, pour la participation à ce débat, à votre expertise, également votre point de vue et à votre soutien également, parce que là, on doit parler de soutien à la cause palestinienne. C'est ici que se finit notre débat. On présente toutes nos condoléances aux familles palestiniennes touchées par la situation, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, parce qu'on n'oublie pas qu'en Cisjordanie aussi, il y a des morts, il y a des emprisonnements injustes, il y a des souffrances. Les deux parties de la Palestine souffrent et Presse TV se joint aux condoléances mondiales pour la cause palestinienne. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Et on espère tous qu'au prochain débat, comme depuis le 7 octobre, les choses s'améliorent. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par l'entité israélienne à Gaza et la famine à grande échelle dans la bande de Gaza. Alors que les craintes d'une famine à grande échelle dans la bande de Gaza continuent de croître, les autorités sud-africaines ont déclaré qu'elles n'avaient d'autre choix que demander à la Cour internationale de justice de prendre davantage de mesures d'urgence pour renforcer les mesures provisoires qu'elle avait précédemment ordonnées à Israël. L'Afrique du Sud a demandé mercredi 6 mars à la Cour internationale de justice CIJ d'essayer de faire pression sur le régime israélien pour contrecarrer les risques de la famine dans la bande de Gaza qui fait l'objet d'une guerre génocidaire. En janvier, l'Afrique du Sud a accusé Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide devant la CIJ. Pretoria a demandé mercredi à la CIJ d'ordonner des mesures d'urgence supplémentaires contre le régime d'Israël, lui reprochant de ne pas respecter les mesures déjà en place pour la bande de Gaza. La présidence sud-africaine a averti également dans un communiqué que la menace d'une famine généralisée s'est désormais matérialisée à Gaza. La Cour doit agir maintenant pour mettre un terme à cette tragédie imminente en garantissant immédiatement et efficacement que les droits qu'elle a jugés menacés en vertu de la Convention sur le génocide soient protégés, précise le communiqué. L'Afrique du Sud a également exhorté le tribunal à exiger qu'Israël prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les services de base et l'aide humanitaire nécessaire de toute urgence soient fournis pour aider à faire face au risque de famine et à améliorer les conditions défavorables dans lesquelles vivent les Palestiniens. Il a déclaré qu'en raison de l'extrême urgence de la situation, la CIJ devrait adopter ses mesures sans tenir d'autres audiences. Dans un discours ce mercredi 6 mars, le ministre des affaires étrangères de l'autorité autonome palestinienne Riyad al-Maliki a déploré le fait que les femmes et les enfants représentent plus de 73% des victimes de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Israël a imposé la faim aux Palestiniens dans la bande de Gaza depuis plus de 150 jours consécutifs. Il n'y a pas d'horizon visible pour la cessation de cette guerre qui est entrée dans son sixième mois et Israël poursuit le génocide, a déploré al-Maliki, et d'ajouter « L'occupation israélienne a imposé une autre guerre contre les habitants de la bande de Gaza, celle de la famine. » Face au génocide à Gaza, le monde est divisé en trois groupes. Le premier est incapable de le faire cesser, le deuxième a choisi de rester silencieux et le troisième, celui qui le soutient, a-t-il noté. Quant aux atrocités du régime israélien en Cisjordanie occupée, il a évoqué le cas de plus de 300 Palestiniens tués en martyrs par le régime israélien et les colons sionistes, sans compter les plus de 700 cas d'arrestation. Faisant allusion à la décision de certains pays pour cesser leur financement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, al-Maliki a exhorté ces pays de réviser leur décision et de reprendre leur aide à cette organisation humanitaire. Par ailleurs, dans un communiqué de presse ce mercredi 6 mars, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, le docteur Ashraf al-Koutra, a déclaré que le bilan des victimes de malnutrition et de déshydratation était passé à 18 martyrs. Il a averti que la famine dans le nord de la bande de Gaza avait atteint un niveau mortel, en particulier pour les enfants, les femmes enceintes et les malades chroniques. La famine s'aggrave et elle coûtera la vie à des milliers de citoyens si l'agression israélienne n'est pas stoppée et si l'entrée immédiate de l'aide humanitaire et médicale n'est pas autorisée, s'est alarmé al-Koutra. Le nombre d'enfants décédés de malnutrition et du manque de soins est ainsi passé à 18 après le décès ce mercredi d'une jeune fille de 15 ans. Au complexe médical d'Al-Shifa, a déploré le responsable qui a évoqué le cas du petit Ahmad Sakr, lui aussi décédé pour cause de la malnutrition et de déshydratation. Il a appelé la communauté internationale à utiliser tous les moyens de pression pour garantir l'arrêt immédiat de l'agression israélienne. Il a également exhorté les Nations Unies à prendre des mesures urgentes pour prévenir la catastrophe humanitaire et sanitaire, en particulier dans le nord de la bande de Gaza. Les organisations humanitaires internationales ont à plusieurs reprises mis en garde contre la famine dans la bande de Gaza. La situation déplorable des malades et des personnes âgées dans la bande de Gaza préoccupe de plus en plus. C'est pourquoi le ministère de la Santé de Gaza a appelé la communauté internationale à faire pression sur le régime israélien pour qu'il mette fin à son agression. Si quelque chose ne change pas, une famine est presque inévitable au vu des tendances actuelles, a averti Jake Laerk, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Il a également ajouté, une fois qu'une famine est déclarée, il est trop tard pour trop de gens. Il a par ailleurs précisé que nous ne voulons pas en arriver à cette situation et nous avons besoin que les choses changent avant cela. nous devons examiner ce que de plus en plus de voix de plus en plus fortes disent à propos de la situation de la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza, en particulier dans le Nord. Cela intervient un jour après que le chef des droits de l'homme des Nations Unies s'est dit consterné face à la brutalité avec laquelle le régime israélien menait la guerre. Le régime d'occupation israélien menait sa guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre après que le groupe de résistance palestinien Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Parallèlement à la guerre, le régime sioniste a imposé un siège complet à la bande surpeuplée, ayant coupé le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. Jusqu'à présent, plus de 30 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués en martyrs à la suite des attaques militaires israéliennes.